Salut, c'est Dr Schnock. Je vous invite à un petit voyage dans le temps pour découvrir l'histoire d'une musique, d'une chanson, d'un musicien ou d'un passionné de musique. Dr Schnock raconte, c'est aussi disponible en podcast sur le www.radio-mdm.fr. Aujourd'hui, Michel Magne et le château d'Hérouville, deuxième partie. Nous sommes en 1963. Michel Magne a 33 ans. Michel Magne, ce compositeur surdoué, ce trublion génial, spécialiste de musique contemporaine, de musique sérielle, précurseur des musiques électroniques, concertiste provocateur, Michel Magne donc s'est essentiellement tourné depuis le début des années 60 vers la composition de musique de film afin de gagner plus sûrement sa vie.
Quand j'ai commencé, quand j'ai débuté, je faisais de la musique contemporaine, j'ai fait de la musique extrêmement personnelle pendant des années. Et à force de manger de la vache enragée, eh bien j'en ai eu marre, j'en ai eu assez. Et je me suis tourné vers la musique de cinéma. Et pour être honnête, je dois dire qu'au départ, la musique de cinéma était pour moi une musique qui me permettait de sortir un peu du marasme et de sortir un peu des difficultés matérielles dans lesquelles j'étais.
Ce revirement lui a plutôt bien réussi, puisqu'en 3 ans, on l'a vu lors de la première partie, il a déjà une 30aine de musiques de films à son actif, parmi lesquelles Le repos du guerrier de Roger Vadim avec Brigitte Bardot, ou Un singe en hiver d'Henri Verneuil avec Gabin et Belmondo, le tout en 62, ou Les tontons flingueurs de Georges Lautner avec Blier et Ventura en 1963. En 2009, Georges Lautner, le réalisateur des Tontons Flingueurs, nous a refait partager sa vision du Michel Magne de l'époque.
Michel avait quand même un avantage, c'est qu'il était fou, mais dans sa folie, il y avait une partie formidable qui m'a beaucoup aidé. C'est pas mal de travailler avec un fou.
Après les Tontons, c'est également en 1963 que Michel Magne compose la musique du nouveau film d'Henri Verneuil, Mélodie en sous-sol. Fidèle à sa marque de fabrique, il invente un thème musical matiné d'influences diverses, de Richard Wagner au péplum italien, qui déclinera ensuite dans la bande-son en plusieurs genres. Écoutons le thème principal. Mélodie en sous-sol raconte l'histoire d'un cambriolage dans le casino de Monte-Carlo, préparé par un vieux truand, joué par Jean Gabin, qui s'associe à un truand débutant, joué par Alain Delon.
Bon, alors écoute-moi bien. À partir de maintenant, travaille au chrono. Parce qu'une minute d'écart ne veut pas dire forcément 60 secondes. Ça peut se transformer en allée de placard. Crois-moi, je connais la question.
Une partie de l'histoire de Mélodie en sous-sol se déroulant dans une ambiance Riviera chic, Michel Magne décline notamment le thème central de la musique en un jazz plutôt élégant. En ce début des années 60, les musiques de films proposées par Michel Magne ont un énorme succès auprès des producteurs et des réalisateurs, car il est capable de passer d'un genre musical à l'autre avec le même bonheur et la même facilité. Comme il a besoin d'argent pour les travaux du château d'Hérouville, on va y revenir, et comme il a toujours été excessif en tout, Michel Magne se jette dans la composition filmique à corps perdu. Le programmateur Stéphane Lerouge nous en parle.
Il y a déjà une espèce de folie totale chez ce type qui sait qu'il bénéficie d'un effet de mode et qui donc pousse la folie déjà tout court jusqu'à accepter parfois jusqu'à 12 films dans l'année. C'est énorme. Biologiquement, je ne sais pas comment un être humain peut franchir cette rampe-là, c'est énorme.
Dans la seule année 1964, Michel Magne va composer 10 nouvelles musiques de films, aussi dissemblables les unes des autres. Tout d'abord, c'est Georges Lautner qui revient solliciter Michel Magne pour la musique du film Les Barbouzes, une burlesque histoire d'espions foireux, avec les acteurs qu'on avait vus dans Les Tontons Flingueurs, Lino Ventura, Bernard Blier, Francis Blanche, accompagné ici par Mireille Darc.
Toi, par contre, dis donc, tout à l'heure, tu me parlais de l'Ange Rouge. Mmh. Eh ben, tu sais où je les ai faites, mes humanités, moi? Au Coliseum.
J'ai connu. On y allait le dimanche après-midi avec Lucienne. À cette époque, je m'appelais Antoinette et Rosalène s'appelait Lucienne. C'était le début du tcha-tcha.
Le tcha-tcha. Eh ben, je te plains.
Mais pourquoi?
Parce que t'es né trop tard. Qu'est-ce que t'as connu? Des contorsionnistes? Des voltigeurs? T'as jamais connu les vrais câlins? Mmh. Vous êtes poussé dans le suave. Saint-Louise Blues, tango chinois.
Ouais, emballage et hôtel tout confort. Eh ben figure-toi, nous c'était pas le genre. On y allait pour danser. Et même des fois, plutôt que de se faire accompagner, on rentrait à peine jusqu'à la contrescarpe.
Où ça t'as dit?
À la contrescarpe.
Tu sais où je suis né, moi? Ouais, Mouffetard.
Oh, c'est pas vrai.
Si.
Mais moi je faisais des pâtés au Luxembourg, moi au parc Montsouris. Ils vont quand même pas remonter au biberon, non?
Dans Les Barbouzes, Magne délivre une partition musicale foisonnante, notamment pour le thème central, dans lequel il mêle des percussions ethniques à des sons électroniques dissonants.
C'est peut-être un congrès. Qu'est-ce qui t'arrive?
Un barbu, c'est un barbu. Trois barbus, c'est des barbouzes.
Dans un tout autre genre, encore en 1964, Michel Magne plonge cette fois-ci dans le complètement sirupeux pour le film de Bernard Bordery, Angélique, Marquise des Anges, avec Michel Mercier, Robert Hossein, Jean Rochefort, aventure à l'eau de rose au temps de Louis XIV. Les aventures tumultueuses de la pulpeuse Angélique et de ses prétendants donneront lieu à 3 nouveaux films successifs en 1965, 1966 et 1968, à chaque fois mis en musique par Michel Magne. Mais revenons à 1964, cette fois-ci c'est André Hunebel qui propose à Michel Magne de créer la musique de son film Fantomas avec Louis de Funès et Jean Marais.
Je t'aurai, Fantomas! Je t'aurai!
Comme Michel Magne est décidément un compositeur multitalent, pour le thème central de Fantomas, il parvient à mélanger blues et aventure, comme nous l'explique le compositeur Jean-Michel Bernard.
En fait, c'est un thème assez simple et il y a ce côté rythmique qui donne tout de suite ce côté un peu policier, mystérieux, bizarre. Et on a une mélodie assez simple comme ça, ici, mais qui remplit bien son office. Ce qui, en fait, est la base du blues en général. Je peux jouer, par exemple, ça ou ça.
Dans Dans notre émission consacrée aux musiques de films de Louis de Funès, je vous avais fait écouter ce que le DJ Nicolas Herrera avait fait de la musique de Fantomas en 2011. Là, je vous propose un extrait de la version de notre DJ, Monsieur Clouseau, rien à voir avec les inspecteurs Clouseau. Ça date de 2009. De Funès avait entendu parler du travail de Michel Magne, pianiste comme lui, et a beaucoup apprécié son travail sur Fantomas. Écoutons le témoignage de la comédienne Mylène de Mongeau, disparue en décembre dernier, qui évoque sa rencontre avec Michel Magne.
Il est venu plusieurs fois, je l'ai vu assez souvent. Je pense qu'il était très jeune à l'époque, à mon avis, je ne sais pas, mais il me semble, dans mon souvenir, qu'il devait avoir 27-28 ans, un truc comme ça. Il arrivait avec ses maquettes et il nous faisait écouter ce qu'il allait faire. Et c'est vrai que tout le monde trouvait ça épatant, et on était très très contents. Et De Funès, qui est très difficile, et qui était très musicien, il aimait beaucoup beaucoup ce qu'il faisait. Il était très très content de son travail.
De Funès sollicitera à nouveau Michel Magne pour la musique des deux films suivants, Fantomas se déchaîne en 1965 et Fantomas contre Scotland Yard en 67. Dans ce dernier opus, Magne rajoutera au thème central deux éléments récurrents du film, l'ambiance cornemuse de l'Écosse et l'univers de la chasse à courre. Les Barbouzes, Angélique, Fantomas, ce petit florilège de 1964 nous montre tout ce dont Michel Magne était capable dans la création de musique de film. Un mélange des genres, des inspirations tous azimuts, une capacité à brouiller les pistes, le tout mêlé à une boulimie de travail et de créativité. Rien de bien apaisant pour ce compositeur foutraque, comme nous le rappelle des années après le réalisateur Costa Gavras.
Au cinéma, ça arrive que le métier lui-même finit par vous... pas vous manger, pas vous engloutir, je dirais, par les difficultés, par, parfois même par les succès. C'est un monde qui est difficile à expliquer aux autres, parce qu'il est complètement un monde intérieur. Et chacun a sa relation très, très intériorisée avec le cinéma, et puis avec l'environnement du cinéma, avec les succès ou avec l'insuccès.
Cette folie, Michel Magne a commencé à la mettre également en œuvre au château d'Hérouville. On l'a vu la dernière fois, à la fin de l'année 1962, il a acheté ce château complètement délabré de 57 pièces dans le Val d'Oise avec son ami le peintre Dragomir. En effet, Magne était à l'étroit dans son appartement à Versailles et il était à la recherche d'un endroit plus vaste pour composer en toute quiétude. Toujours dans la démesure, il est tombé sous le charme de cet immense lieu complètement vétuste et s'y est immédiatement installé avec sa femme et sa fille, avec le projet d'en faire un endroit de rêve pour composer. Il commence alors la rénovation de l'aile gauche du château, afin notamment d'y installer son propre studio de création. Il convoque à cet effet les meilleurs ouvriers et artisans possibles, et tous les droits d'auteur de ses musiques de films y passent. Et pour subvenir à toutes les dépenses, Michel Magne compose pendant cette période musique de film sur musique de film, 10 autres dans la seule année 1965. En 1965, justement, un jeune metteur en scène se lance dans sa première réalisation. 3 ans plus tôt, il était l'assistant d'Henri Verneuil sur le tournage d'Un singe en hiver. C'est là qu'il a rencontré Michel Magne. C'est donc tout naturellement qu'il fait appel à lui pour la musique de son premier film, dont l'acteur principal est Yves Montand. Ce réalisateur, c'est Costa Gavras et son film « Compartiment tueur ». Cette musique de Compartiment tueur de 1965 est devenue depuis un classique souvent réutilisé dans les émissions qui parlent de cinéma. En 1965, justement, l'aile gauche du château d'Hérouville est flambant neuve. On y trouve un atelier de travail, une véranda, une volière et dans les combles, une salle de musique de 150 mètres carrés pour les besoins personnels de Michel Magne, avec piano à queue, orgue électronique, instruments divers, table de mixage dernier cri et de quoi travailler pour ses assistants. Dans le parc de 2 hectares sont aménagées une piscine et un court de tennis. En bon vivant et fin gourmet qu'il est, Michel Magne commence alors à inviter à Hérouville ses nombreux amis et tout ce qui compte de réalisateurs, de musiciens, d'artistes, de personnalités du moment. Il organise au château des fêtes grandioses de centaines de personnes, des bals masqués, des performances où se presse le tout Paris du spectacle, avec des banquets concoctés par des chefs étoilés, et des animations burlesques menées par Magne lui-même en souvenir de sa jeunesse circassienne en Normandie. Même au quotidien, les repas ne se font jamais à moins de 20 ou 30 convives. Hérouville devient un lieu de fête permanente. Les pique-assiettes n'y manquent pas, et c'est Magne qui paye pour cette vie de flambeur qu'il a voulu.
Michel était extravagant et il aimait beaucoup recevoir et il aimait bien recevoir. C'était un châtelain. Oui, il était très généreux. Il comptait pas, Michel, parce qu'il recevait les gens avec des châteaux Margaux. Il avait une cave extraordinaire.
Magne était quelqu'un qui refusait de compter. C'était un gouffre financier sans précédent. Il refusait de se limiter à dépenser.
Michel Magne et sa femme Monique ont maintenant 2 enfants, puisqu'un petit garçon est né en 1963. Et fin 65, c'est le premier drame, puisque le copropriétaire du château, le peintre Dragomir, se tue dans un accident de voiture. Marqué par cette tragédie, Michel Magne a maintenant l'ensemble des travaux d'Hérouville sur les bras. Il se noie d'autant plus dans des fêtes continuelles la nuit et dans la composition de musique le jour pour financer le train de vie du château. Il devient complètement indisponible à la vie de famille. Pris par l'effervescence de la période, il néglige de plus en plus les siens. Et après 2 années supplémentaires à ce rythme fou, c'est l'inévitable 2e drame pour Michel Magne. Passablement négligé et lassé par cette vie de dingue, sa femme Monique le quitte en 1968 et le laisse avec ses 2 enfants de 5 et 8 ans. On l'écoute.
Il était parti dans une direction qui ne me plaisait pas et je ne voulais pas le suivre dans cette direction-là. Et bon, ça s'est dégradé à partir de 66 à peu près. J'ai tenu 2 ans, mais je ne pouvais plus.
La deuxième partie de l'année 1968 est compliquée pour Michel Magne. Pendant que Paris et la France sont en ébullition et en pleine espérance de lendemain qui chante depuis le mois de mai, lui est miné par une dépression tenace qui ne le lâche pas pendant plusieurs mois, même s'il essaie de donner le change. Au moment où il recommence à émerger, en mai 69, un 3e drame survient pour lui, qui le marquera à jamais. Un incendie, sans doute criminel, ravage l'aile du château qui venait d'être refaite à grands frais.
Il pensait qu'on avait mis le feu exprès, que c'était quelqu'un qui lui en voulait. Je sais qu'il avait une idée précise de qui pouvait lui en vouloir au point d'avoir mis le feu à Hérouville, mais moi j'étais plus là, donc j'en ai pas vraiment discuté avec lui. On se voyait pas à cette époque-là. Notre séparation était trop fraîche et c'était difficile entre nous.
Pas de sauvegarde numérique à l'époque, bien entendu. Aussi, toutes les partitions originales de Michel Magne sont parties en fumée dans l'incendie, ainsi que ses bandes magnétiques, ses disques, ses films, l'œuvre de toute une vie.
Ce qui est grave, c'est toute ma musique, toute mon œuvre entière qui a brûlé. Et ça, je vous assure que de plus en plus, maintenant, je me sens mal dans ma peau, je me sens mal à l'aise et j'ai vraiment beaucoup de peine, surtout en y pensant, ça me fait mal au cœur. J'ai perdu toute mon œuvre entière, toute ma musique et ça, j'arrive pas à l'avaler. Je suis incapable de réécrire toute mon œuvre. Vous pensez à la symphonie humaine, il y avait les deux autres symphonies, il y avait les deux concertos de piano, les deux concertos de violon, il y avait toutes les suites d'orchestre, il y a toute mon œuvre de jeunesse, tout ça a grillé, tout ça a brûlé, et j'ai pas un double, j'ai pas une copie de tout ça, j'ai rien.
C'est ce qui peut arriver de pire à un compositeur.
Alors ça, c'est ce qui peut m'arriver de pire absolument, et je suis très douloureux en ce moment, rien que d'en parler. De plus en plus, j'ai l'impression que j'aurais du mal à supporter ce poids et ce fardeau, mais j'ai beau me dire, je vais oublier, je m'en fiche, etc., etc., faire le fanfaron.
Dur.
J'ai du mal à l'avaler, oui.
S'ensuit à nouveau une période d'intense dépression, que Michel Magne essaie tant bien que mal de masquer, lui qui s'est construit l'image d'un personnage de châtelain truculent, festif, démesuré. Pourtant, la douleur est profonde.
Il s'était construit une telle image, il jouait un tel rôle en permanence, que j'ai jamais vu Magne ne pas aller bien. C'était toujours démesurément incroyable, formidable, génial, super. Par moments, il était taciturne, oui. Il était dur à... Et puis il était comme ça pendant une, puis il regardait, puis il faisait une grimace, il faisait rire tout le monde, et puis ça passait.
Finalement, au fin fond du désespoir, Magne va trouver l'énergie de repartir sur une nouvelle aventure, sa dernière, et certainement la plus grandiose. Il se met en tête de recréer à Hérouville non pas un simple studio de composition personnelle, mais plutôt et surtout un studio d'enregistrement destiné aux musiciens et aux artistes, ce qui va permettre au château de renaître de ses cendres et, nous le savons aujourd'hui, d'entrer dans l'histoire. De musicien-compositeur, Michel Magne décide alors de s'improviser patron de studio. Pour ce faire, il fait aménager et câbler en 3 mois dans une autre aile du château un studio d'enregistrement de plus de 100 mètres carrés, 6 mètres de hauteur, avec poutres apparentes et lustres d'époque, acoustique de haut niveau et matériel sono dernier cri. Et le 21 novembre 1969 est créée la SEMM, la Société d'enregistrement Michel Magne. Le studio d'Hérouville est baptisé Strawberry Studio. Il devient le premier studio en France et le deuxième au monde, basé sur le concept de studio résidentiel, où création, travail, restauration et hébergement sont liés. Lui, le spécialiste de musique contemporaine, choisit le virage de la pop-musique à domicile.
Dans tous les grands musiciens contemporains, actuels, dans la musique pop particulièrement, on trouve de très 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 grands musiciens. Je ne veux pas dire pour ça que la musique de Xenakis ou de Pierre Boulez n'est pas bonne. Au contraire, je les estime beaucoup et je les adore. Mais la musique des Pink Floyd, par exemple, va tellement plus loin que la musique de M. Xenakis, tellement plus loin. Et elle ne s'adresse pas à 2000 personnes, elle s'adresse à 2 millions, 10 millions, 20 millions de personnes.
L'idée géniale de Michel Magne est de proposer aux chanteurs et aux groupes de pouvoir créer, manger et dormir au château d'Hérouville, qui possède plus de 10 chambres dans chaque aile, une partie résidentielle avec flipper, baby-foot, table de ping-pong dans la véranda, et dont le parc avec piscine et tennis s'étend sur 2 hectares. Aujourd'hui, ça nous paraît évident d'accueillir des artistes en résidence de création, mais en 1969, c'est révolutionnaire. Personne n'a jamais fait ça en France. À ce moment-là, la vie des musiciens en studio n'avait rien d'une rigolade. Les séances de prise de son étaient dirigées par des ingénieurs en blouse grise, eux-mêmes salariés des maisons de disques, et qui ne laissaient aucune place à la liberté ou à la recherche de la part des artistes. Pas question non plus de fumer ou de boire, ni de discuter les parties pris techniques. Les studios étaient situés généralement en ville, sans fenêtres et sans âme. Il fallait arriver tôt le matin, ranger les guitares vers 17h, on allait au studio comme on se rendait au bureau.
Cities almost everywhere, but I never found a city so great and fair. From now on, you'll always find me there. Paris, that's
the scene for me.
Michel Magne connaît du monde dans le milieu de la musique, mais malgré ses réseaux, les débuts du studio sont un peu laborieux. Un studio d'enregistrement à 50 km de Paris, quand les artistes sont plutôt friands de nuit parisienne, c'est difficile à promouvoir. Le fait que l'environnement du studio soit à ce point original et sa qualité technique de premier ordre, ça ne se sait pas encore. On voit cependant débarquer à Hérouville les premiers artistes étrangers, des bluesmen en priorité, comme Buddy Guy ou Memphis Slim, mais aussi les rockers boogie de Canned Heat. Même s'il n'y reste que quelques jours, la qualité du son du studio impressionne ses premiers artistes de passage. Le bouche à oreille porte ses fruits, et quelques autres artistes commencent à venir goûter à cette liberté d'enregistrer au château, à l'heure qu'on veut, de jour comme de nuit, et le temps qu'on veut, puisqu'on habite sur place. Arrive l'année 1970. Un jour de juin, après Sergy Pontoise, sur le chemin d'Hérouville, Michel Magne prend une jeune autostoppeuse dans sa voiture.
Je faisais de l'autostop sur le bord de l'Oise. C'était en juin 1970. J'étais au lycée à Pontoise, j'avais 16 ans. Je monte dans sa voiture, il est très cordial, très gentil. Il m'a dit, voilà, je suis Michel Magne. Et moi, je lui ai dit, moi, je suis Marie-Claude Calvé. Il m'a quand même expliqué qu'il avait un château dans la région avec une piscine et un studio d'enregistrement. Et on s'est quitté comme ça, au revoir, voilà. On s'est regardé de profil, quoi.
En août 1970, Marie-Claude devient la babysitter des deux enfants de Michel Magne, puis finit par vivre à Hérouville en permanence.
Au mois d'août, je suis venue garder les enfants de Michel comme babysitter. Et là, mes petits frères étaient là aussi, donc on était en famille. Tout le monde, on avait pratiquement tous le même âge. Moi, j'avais 16 ans. Je me suis sentie comme une muse pour Michel. J'ai vu que j'étais comme une princesse pour lui. Moi, j'étais dans un conte de fées.
Malgré la différence d'âge, Michel Magne et Marie-Claude se rapprochent peu à peu, au fil du temps et des pérégrinations de la vie au château. Leur grande maison devient progressivement la maison du bonheur, pour eux, mais aussi pour quantité d'artistes. Michel et Marie-Claude se marieront en 1972 et auront un fils en 1973. Mais revenons en 1970. Quelques artistes anglo-saxons sont déjà venus enregistrer à Hérouville, et la rumeur d'un studio hors norme à deux pas de Paris commence à courir dans le milieu des artistes. Elle se répand en France. Et finalement, le premier album en français enregistré au château est celui d'Eddie Mitchell, Rock'n'Roll. Pour finaliser l'enregistrement de cet album d'Eddie Mitchell, Michel Magne fait appel au jeune ingénieur du son, Dominique Blanc-Francard.
Je faisais beaucoup de séances de free jazz, que j'aimais beaucoup à l'époque, avec un garçon qui était un bon producteur de jazz. Ce gars, un jour, me dit « Il faut que je te fasse rencontrer quelqu'un d'incroyable qui a monté un studio dans sa maison à la campagne. » Et la même époque, il y a eu un article dans une revue qui s'appelait Son Magazine, je crois, un truc comme ça, où il y avait Michel Magne, le fou dans son château. Et il y avait tout un article de 3 pages avec des photos du studio. J'ai dit, quand même, ça intéresse les gens. Et 2-3 mois après ça, Michel Magne me laisse un message parce qu'il était en train de faire un album de Eddie Mitchell dans son studio. Il restait 3-4 jours d'enregistrement terminé. Il m'a demandé si je voulais venir finir Et bon, je me dis, j'essaye. Magne se rend compte que les clients étaient contents. Il me dit, est-ce que tu viens travailler pour de bon? Je t'engage. Tellement je m'ennuyais où j'étais, j'allais, je prends le risque. Je suis rentré là-bas, à Aéroville, et 2 mois après avoir commencé, je travaillais 24 heures sur 24.
Dans ces années-là, on est en pleine période des grands festivals pop hippie. Après Woodstock en 69, il y a eu celui de l'île de Wight en 70, et les producteurs lancent l'idée de créer un grand festival à Auvers-sur-Oise, à 2 pas d'Hérouville, en juin 1971, pour ce qui doit devenir le Woodstock français. On y annonce la venue des Rolling Stones, alors en villégiature dans le sud de la France, mais aussi Jefferson Airplane, Led Zeppelin et Grateful Dead. Malheureusement, à l'approche du festival, un orage éclate, un temps épouvantable s'installe et la pluie n'arrête pas de tomber. Les concerts s'annulent les uns après les autres, et parmi les têtes d'affiche annoncées, seul le Grateful Dead a finalement fait le voyage.
C'était en juin 71, le jour de la fête de la Saint-Jean. Jean Bouquin, qui avait organisé un festival de rock à Auvers-sur-Oise. Jean Bouquin était le couturier de Brigitte Bardot.
C'était annoncé dans tous les journaux, les revues pop, les machins. Ils font un plateau incroyable, une scène montée dans un champ. Magne prête son piano, son Steinway. Bouquin loue la sono, le machin. Et ils arrivent à faire venir le Grateful Dead, qui était quand même le groupe américain le plus connu des groupes pop de l'époque, qui était fiché par le FBI, qui était sur écoute, enfin un groupe subversif américain, connu pour étant les plus gros dealers de l'époque, étant un truc incroyable, et les Grateful Dead acceptent de venir faire ce concert à Auvers-sur-Oise. Le seul truc qu'ils avaient oublié, c'est qu'on était en été, mais on n'était pas à l'abri des intempéries. Et donc le lundi, trompe d'eau, un orage sans précédent s'abat sur Auvers-sur-Oise, le festival dans la boue. Les 300 000 hurlus, berlus, chevelus qui venaient de France et de Navarre, de partout, à pied, en cheval, en voiture, paumés dans la campagne, et Grateful Dead dans le désarroi le plus total. Et Michel les invite au château. Et pour remercier Michel de son hospitalité, décide de faire un concert gratuit dans le jardin du château d'Hérouville, uniquement pour les gens du château. Et Magne prévient la presse, donc il y avait une vingtaine d'invités triés sur le volet, et ça crée une émeute. Parce qu'évidemment, le bruit s'est su que le Grateful Dead était au château d'Hérouville. Tout le monde savait qu'ils allaient faire un concert privé, et le soir du concert, il y avait 2000 personnes qui essayaient de forcer les grilles. Il y avait une surveillance très très stricte du château, d'abord à cause du fait qu'il y avait un concert privé. Le jour de leur arrivée, on était sur écoute. Il y avait 3/4 de CRS à 100 mètres du studio qui surveillait le château 24 heures sur 24.
Qu'il fallait pas qu'on touche parce qu'il y avait quelques gouttes de LSD très très bien dosées et tout le monde était donc sur le même mood, si tu veux, parce qu'il y a des paysans après qui ont dit à Michel, ah ben monsieur Magne, cette musique elle nous fait un drôle d'effet, c'est comme si on avait trop bu.
Et une débauche, mais de herbe LSD sans précédent, les paysans du château d'Hérouville et des environs ont fait des sillons sinueux dans les champs pendant des mois. Après, on secouait les mômes par les pieds et tombait des pétards par terre.
Comment veux-tu ne pas te rappeler d'un moment pareil ? Ça te marque toute ta vie, ce moment-là. Et il y a des gens qui ont dit à Michel, mais Michel, on n'oubliera jamais ce que tu nous as offert ce jour-là. Jamais.
C'est un court moment de ce concert privé des Grateful Dead que l'on vient d'entendre dans cet extrait, car le concert a été filmé, comme le raconte un journaliste télé de l'époque.
Le festival d'Auvers-sur-Oise avec une grande vedette annoncée sur les affiches, le Grateful Dead, et on se demandait s'ils viendraient ou pas, ils sont venus. Mais le festival, lui, a eu le sort qu'on connaît. Et pendant ces 3 jours de pluie, le Grateful Dead est resté au château, au studio de Michel Magne. Et au bout de 3 jours, ils avaient extrêmement envie de jouer. Ils ont joué pour les 200 personnes qui se trouvaient invitées par Michel Magne dans les jardins, avec les 5 tonnes de matériel qu'ont déployé le DED. Mais ils ont aussi joué pour la télévision, pour que tous ceux qui n'étaient pas là et tous ceux qui avaient envie de voir le DED puissent le voir au moins une fois lors de la première venue du DED en France. Le Grateful Dead, pour la première fois en France en concert, à Hérouville, au mois de juin 71.
Les images du concert privé des Grateful Dead font le tour du monde. C'est un coup de pub improvisé, mais génial pour Michel Magne et son château. Et en cette fin d'année 1971, le studio d'Hérouville se met à tourner 6 jours sur 7 et 24 heures sur 24. La renommée du studio devient énorme, en France comme à l'international.
C'était à Saint-Paul-de-Vence, où il allait beaucoup parce qu'il aimait beaucoup la peinture. Il faisait de la peinture, de la sculpture, pas mal de choses artistiques comme ça. Et à Saint-Paul-de-Vence, Michel Magne rencontre Bill Wyman, qui était le bassiste des Rolling Stones. Il lui dit « Ah ouais, moi aussi je fais dans la musique, j'ai un château à côté de Paris, il faudra que tu viennes voir, et j'ai un studio d'enregistrement dans mon grenier. » L'autre, il a dit « Un studio d'enregistrement dans un grenier ? Ah ouais ? Ah ben je viendrai voir. » Il m'appelle pendant une séance, il me dit « Je suis en bas avec Bill Wyman, je peux vous monter, lui faire visiter le studio ?» Je dis « Oui, tu peux. » Parce qu'il était assez farceur quand même, le bonhomme. Et donc, il monte avec Bill Wyman. Et là, je me retrouve face au bassiste des Rolling Stones, j'étais assez impressionné, qui regarde l'endroit, qui regarde le studio, qui regarde un peu tout, qui baragouine 2 mots de français, qui s'en va. Et bon, moi, je suis impressionné, je viens voir le bassiste des Stones, c'est quand même pas rien. Et un quart d'heure après, Magne m'appelle, il me dit « Tu peux descendre dès que tu as un moment ?» Je descends, il me dit « Il a trouvé le studio génial, il vient enregistrer cet été. » Bill Wyman transmet le mot à ses potes, et là, depuis ce moment-là, jusqu'à la fin du château, le studio se remplit que de groupes anglais étrangers.
Et parmi ces groupes stars où on passe de le devenir, que Bill Wyman a tuyauté, écoutons cet extrait des Pink Floyd, en pleine séance d'enregistrement à Hérouville, début 1972.
Vendredi 25 février, Hérouville, à 50 km de Paris, Pink Floyd enregistre la musique du nouveau film de Barbet Schroeder, le metteur en scène de Mort.
Le studio principal d'Hérouville a finalement été baptisé George Sand, et début 1972, un second studio est créé dans un autre coin du château, dénommé Studio Chopin, bien sûr, puisque le château d'Hérouville est censé avoir abrité les amours clandestines des deux artistes au 19e siècle. Le Studio Sand sera plutôt réservé aux musiciens anglo-saxons, les Français étant dirigés vers le Studio Chopin. Pour financer le tout, Michel Magne doit tout de même continuer ponctuellement son travail de compositeur de musique de film. C'est notamment le cas pour son grand ami Jean-Yann, témoin de Magne à son mariage avec Marie-Claude. Les films successifs que commettra Jean-Yann pendant cette période seront tous mis en musique par Michel Magne, dont le fameux « Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». On écoute ici Michel Magne pendant le mixage du film à Hérouville en 1972.
Moi, je trouve que les premières voix, il faudrait essayer de les mixer avec beaucoup plus d'égalité parce qu'on entend trop les secondes voix, on entend pas assez les premières voix. Alors on a l'impression qu'elles disparaissent là. Par contre, la percussion,
elles sont un peu noyées dans l'écho là. Hein.
Tout le monde dit les beaux, c'est un film assez corrosif sur les médias et sur les médias qui n'étaient pas comme ça à l'époque, qui le sont devenus. C'est assez visionnaire comme scénar.
Le film de Jean-Yann se passe dans l'univers d'une radio commerciale de l'époque où la dernière lubie du directeur des programmes a été d'utiliser l'image de Jésus et de la religion catholique pour vendre de la publicité. Inutile de dire que les mécréants libertaires Jean-Yann et Michel Magne s'en sont donnés à cœur joie, dans le film et dans la bande-son, pour fustiger tous les travers de la société post-68arde de l'époque. Un exemple savoureux avec Yann aux paroles et Magne à la musique.
Quand les pavés volent comme de grands oiseaux gris, en plein dans la gueule des flics au regard surpris, quand ça galussaque, lorsque partout l'on entend le bruit des matraques sur les crânes intelligents. Dans la douceur de la nuit, le ciel m'offre son abri, et je pense à Jésus-Christ, celui qui a le ciel calme, l'avion par-dessus les toits verse son napalme sur le peuple indochinois. Quand c'est la fringale, lorsqu'en place d'aliments les feux du Bengale cuisent les petits enfants. Dans la tiédeur de la nuit, la prière est mon appui, car je pense à Jésus-Christ, celui qui a ça jordanise, quand le pauvre fédayen copie par bêtise la prose à Monsieur Jourdain, quand le mercenaire ne songe qu'à vivre en paix et se désaltère avec un demi-biafraie. Dans la fraîcheur de la nuit, je me sens tout attendri en pensant à Jésus-Christ, celui qui a
À partir de 1972, les studios du château d'Hérouville tournent à plein. En janvier 72, Elton John vient s'y installer avec 25 personnes. Il y enregistre tout d'abord l'album bien nommé Honky Château. Tous les matins à Hérouville, Elton John et son parolier Bernie Taupin écrivent une chanson, l'enregistrent en trois prises l'après-midi, puis Elton file en Rolls à Paris, le plus souvent chez Yves Saint-Laurent, et revient vers minuit chargé de nouvelles fringues. Il écoute alors le mixage, si ça lui plaît tant mieux, sinon on recommence le lendemain. L'histoire va durer comme ça pendant 18 mois et donner lieu à trois albums mythiques. En effet, en juin 72, très inspiré par la douce folie de l'ambiance du château, Elton John sort un deuxième album, Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player.
I'm not afraid to die.
Il est vrai que l'ambiance est délirante à Hérouville. Vous pouvez vous trouver un midi à table au milieu de 20 personnes, parmi lesquelles Elton John, Johnny Hallyday ou les Pink Floyd, pendant que les T-Rex jouent au baby-foot, que David Bowie fait un ping-pong avec Cat Stevens et que les enfants de Michel Magne se baignent dans la piscine avec Rod Stewart et Michel Polnareff. On vit au château dans une ambiance de fête continuelle, de création débridée, de sex and drugs and rock and roll, où Michel Magne joue les Monsieur Loyal extravagants. Il se déguise même parfois la nuit en fantôme de Sand ou de Chopin pour effrayer ses invités pendant leur sommeil et contribuer à la légende du château dont les prospectus publicitaires assurent qu'il est hanté. Et pendant ce temps, dans le studio Chopin, le tout jeune Gilbert Montagnier venait d'enregistrer son premier tube. Don't let me play the fool, c'est ce qu'aurait dû demander Michel Magne à son entourage s'il en avait eu la lucidité. Dans ces années-là, en effet, des dizaines d'artistes français et internationaux viennent de plus en plus nombreux goûter aux joies du processus de création unique d'Hérouville, qui devient le studio le plus célèbre du monde. L'accueil fastueux de son propriétaire, Michel Magne, y est évidemment aussi pour beaucoup. Mais ce dernier s'épuise à courir d'une aile du château à l'autre pour régler des problèmes techniques ou des problèmes d'ego. Et comme la gestion n'a jamais été son fort, l'argent coule à flot, le nombre de salariés est pléthorique et les frais fixes explosent.
Quand Michel a vu qu'il avait atteint le résultat qu'il espérait pour son studio, d'abord il était hyper heureux, puis en même temps il a encore plus pété les plombs qu'avant et il avait beaucoup de mal à faire la différence entre son porte-monnaie et la caisse de la société. Donc ça partait en vrille à une vitesse inouïe, quoi. Il dépensait plus d'argent en bouteilles de champagne et en foie gras que ce que rapportait la facture du studio. Je pense que le truc s'est enrayé parce que c'était pas un bon gestionnaire, quoi.
Magne confirme.
Je suis le plus mauvais comptable de la Terre. Si bien que je peux donner facilement l'apparence à des gens d'être un très bon homme d'affaires, de me défendre dans les affaires, d'être très doué, de manier l'argent, de manier ça. Et puis finalement, je suis lamentable.
Vous faites avoir souvent ?
Ah, tout le temps. Tout le temps. Il suffit de me prendre par les sentiments ou par un gentil sourire comme le vôtre.
Mais moi, vous ne risquez pas grand-chose, de toute façon.
Ou par une bonne bouteille, je me fais avoir facilement.
Et c'est ainsi qu'après avoir sollicité plusieurs personnes, Michel Magne cède finalement, le 30 juin 1972, toutes les parts de sa société d'enregistrement à Yves Chamberlain, le patron du studio Davou à Paris. Et le tout pour un franc symbolique. Michel Magne reste tout de même propriétaire du château. Évidemment, comme on peut le craindre pour cette histoire extraordinaire, c'est un peu le début de la fin. Comme Spartacus en son temps, après l'embellie et l'ivresse de la liberté, désormais, Magne le révolté court inéluctablement à sa perte, même s'il ne le sait pas encore. Spartacus, Michel Magne, 1975.
You're not just any name. Freedom nailed you to the cross and tyrants brought your fame. Spartacus, you're not just anyone. Though you died a wounded clown, the battle has been done. Don't sigh, brother slave, there's no paradise to come. Let the credit go, take the money now.
listen to the beat. Don't be sorry tomorrow. It's that old sweet sound of a distant drum. I knew you had to fall. Tell me every detail, cause I've got to know it all. Spartacus, my hero of the game. I will keep inside my heart a picture of your pain. Don't sigh, brother slave, there's no paradise to come. Let the credit go, take the money now. Listen to the beat, don't be sorry tomorrow. It's that old sweet sound of a distant drum. Into what they wanna hear. You're the kind they gag and then they slay. But we duplicate your labyrinth in every way. Don't sigh, brother slave, there's no paradise to come. Let the credit go, take the money now. Listen to the beat, don't be sorry.
Michel Magne et le château d'Hérouville, troisième et dernière partie dans le prochain Dr Schnock raconte. Salut, Dr Schnock vous dit à la prochaine. Dr Schnock raconte, c'est aussi disponible en podcast sur le www.radio-mdm.fr.